pour les dames. Dans le troisième chapitre de Echa, en passant, c'est un chapitre qui est construit avec un triple alphabet, c'est-à-dire il y a d'abord trois fois Aleph, trois fois Bet, trois fois Gimel, etc. dans les psukim. Entendu que le Maharal dit que c'est un chapitre qui a été ajouté à la Megillat Echa. Le roi Joachim avait brûlé cette Megillah. Et ensuite, on a rajouté un chapitre. Et ce chapitre, il est en quelque sorte le pendant des trois autres chapitres qui, chacun d'entre eux, est construit sur l'ordre alphabétique, mais à chaque fois un verset pour Aleph, un verset pour Bet, et ici trois versets pour chacune des lettres. Et le Maharal explique que ça correspond aux deux Batei Mikdash. Le premier Batei Mikdash a été détruit à cause des trois fameuses Averot, donc il y a trois chapitres sur chacun avec un alphabet. Et ce qui a été rajouté, ça correspond à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et celui-là, il y a un seul chapitre qui est aussi lourd, si vous voulez, de conséquences que les trois autres, dans la mesure où le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Sinat Chinam. Et Sinat Chinam pèse aussi lourd que les trois Averot majeurs qui ont été la cause de la destruction du premier Beth Amikdash. Bon, c'est juste en passant. Une partie de ce que je vais dire est largement inspirée de Shiurim de Rav Lechter. Un pasouk dit, au pasouk Lamed Chet, non, on va commencer, au pasouk Lamed Zayin, Mize Amar Vatehi Hashem lo tziva, mipi elyon lo tetze araot veatov, maitonen adam chai gever al chatav, alors narpesa drachinu venarkora venashuva ad Hashem. Et ensuite, nisa levaveinu el kapaim, el kel bashamaim. C'est-à-dire, ici dans la traduction que Stone là, qui est celui qui a pu décréter une chose qui se réalise sans qu'Hachem ne l'ait ordonné. N'est-ce pas de la bouche d'Hachem que sortent le mal et le bien? De quoi un homme vivant se plaindrait-il, un homme fort, de ses péchés? Cherchons et examinons nos voies, retournons vers Hachem et élevons nos cœurs avec nos mains vers Hachem qui est au ciel. Ici, on voit qu'il ne suffit pas du tout, lorsqu'on a pris conscience qu'on a mal fait, il ne suffit pas de prier. La prière, c'est le pasouk Nisal Vaveinu El Kapaim. Le dernier verset que j'ai cité lui parle de la prière. Mais pour arriver à prier, pour avoir en quelque sorte le droit de prier, alors il faut premièrement prendre conscience effectivement de ce qu'on a mal fait et faire tshuva. Et ça, ça n'est pas encore suffisant. Il faut faire quelque chose. Il faut agir dans le bon sens. Il faut commencer à agir. Étant donné que la prière, essentiellement, elle est construite. La prière, elle est construite avec le mot Baruch. Et du Nefesh HaChaim, on sait que Baruch veut dire amplifier, augmenter. Donc ça ne peut pas commencer si on n'a rien. Vous pouvez multiplier zéro par ce que vous voulez, ça ne donnera pas grand-chose. Donc il faut avoir fait quelque chose, il faut commencer quelque chose, et à ce moment-là seulement on peut se mettre à prier pour demander à Hachem de nous aider. On ne peut pas commencer par la prière. Quand on a pris conscience de sa faute, il ne suffit pas il ne suffit même pas de faire tshuva. Il faut faire un pas dans la bonne direction. Il faut commencer dans la bonne direction. Le problème, c'est que ce n'est pas ce que nous voulons en général. En général, nous voulons que les choses aillent dans notre sens. Nous avons notre plan, nous avons nos désirs, nous avons des idées sur ce qu'on pourrait construire, comment on pourrait le construire. Et ça, c'est en réalité, c'est ça en fait qui mène à la sinat chinam, à la haine gratuite. Si on a fait quelque chose, alors par définition, ce n'est pas chinam, ce n'est pas gratuit. La sinat chinam, c'est rien. C'est-à-dire, la sinat chinam, c'est je t'en veux parce que tu ne tires pas dans le même sens que moi. Je t'en veux simplement pour ça. Tu n'as rien fait. Tu ne m'as rien fait, évidemment. Mais tu ne vas pas dans le même sens que moi. Et pour cela, je t'en veux. C'est ça, sinat chinam. Maintenant, il faut admettre donc que l'autre existe, que l'autre a lui aussi des plans, mais il ne s'agit pas de s'écraser ou d'être tolérant des plans de l'autre. Parce que ce qu'on vise, en réalité, c'est une forme d'harmonie. Et la tolérance, ce n'est pas encore l'harmonie. C'est même loin de l'harmonie. Il faut comprendre que nous avons tous une place dans un plan qui est le plan divin. HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il l'a créé en le lisant en quelque sorte, ou en le construisant d'après la Torah. Bien sûr, la Torah, c'est lui qui l'avait fabriquée, mais le monde a été créé d'après la Torah, et le monde, sa force, toute la vie qui existe, toute l'énergie qui existe dans le monde, à tous les niveaux, depuis le monde minéral jusqu'à l'humain, jusqu'aux juifs, toute l'énergie ne vient que des lettres de la Torah. Elle ne vient que de ce qui est le plan du monde, le plan d'Hachem. Et Hachem, dans ce plan, il y a nous. Nous aussi, nous sommes créés d'après ce plan. Et donc nous avons une place dans le plan d'Hachem. Mais l'autre aussi, il a une place dans le plan d'Hachem. La première chose à accepter, c'est que l'autre a exactement la même place dans le plan d'Hachem que moi. Comment est-ce que on va construire ce monde d'harmonie? C'est en essayant d'être grand. La grandeur, en l'occurrence ici, c'est d'avoir la conscience et d'avoir donc un plan personnel qu'on a dans toute la mesure du possible aligné sur le plan d'Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que, et dans la mesure où j'ai une place dans le plan d'Hachem, que je peux grandir. Il y a toute autre grandeur est complètement vaine. C'est pas vraiment de la grandeur. Notre vie, en fait, elle est ouverte vers le haut. Ce qu'on appelle cette ouverture vers le haut, on appelle ça Ashraat Ashrina. On appelle ça la présence divine. Et ce que je dois vouloir, si je veux être grand, c'est être une partie de la construction en question. Mais encore une fois, nous avons très envie de rester petits. Rester petit, c'est rester dans un monde de destruction. Le monde tel qu'il est décrit dans Echa, c'est un monde de la destruction, un monde détruit ou en voie de destruction. Bien entendu, quand on reste petit, rester petit, donc, c'est rester avec son plan personnel. Alors, pendant un certain temps, ça a l'air d'être, c'est ce que je veux, on a tout le plaisir qu'on veut. On dit que le Baal HaTanya, quand il est allé à Saint-Pétersbourg et qu'il a vu la ville, alors il a dit que Esav hat sich nicht abgenagt. Ça veut dire Esav ne sait pas raconter des histoires. C'est beau. C'est extrêmement beau. Bon. C'est pas de la blague, là, tout ce qu'il a vu. C'est les constructions fabuleuses, c'est les beaux jardins, c'est des ors, des parures, tout ce qu'on veut. C'est très très beau. Seulement, ça n'a qu'un temps. Ça n'a qu'un temps et on ne grandit pas par cela. Or, cette volonté de rester petit, en fait, c'est-à-dire de rester dans ce monde de destruction, c'est quelque chose d'extrêmement puissant parce que on a tous l'impression que c'est ma volonté. En vérité, on reste petit, mais c'est comme ça que je veux les choses. Et comme on l'a vu, on peut même avoir l'impression qu'on n'est pas si petit que cela. Il s'agit en fait donc d'être plus grand que moi-même. Alors, ça commence dans Ben Adam la Chavero, dans les relations interhumaines, mais ça existe aussi dans les relations entre l'homme et Akadosh Baruch Hu ici. Ça veut dire que on exige quelque chose de moi, mais ce qui est exigé de moi, c'est l'autre qui pourra me dire si j'ai fait ce qui est exigible de moi. L'autre en question n'est pas obligatoirement loin de moi, il est aussi, il peut être chez moi, il est dans ma maison, il est mon proche. L'idée, c'est qu'on ne peut pas construire sans une aide extérieure. L'aide extérieure en question, elle doit être plus grande que moi pour que je puisse, moi, réellement grandir. L'autre, il ne pense pas obligatoirement comme moi. Peut-être dans ma maison, mais Ashrat Ashrina, la Ashrat Ashrina, la présence divine dans cette maison ou dans la relation avec l'autre, c'est obligatoirement une relation où, dans laquelle, encore une fois, on reconnaît que l'autre a exactement la même place dans le plan divin que moi. Et la grandeur, c'est justement d'être capable de viser sa propre grandeur et reconnaître en même temps que l'autre aussi doit viser sa grandeur. Si on ne le fait pas, on se ferme à un monde meilleur en réalité. Nous, on est très loin de tout ça. Les mitzvot, par exemple, elles doivent être vues aussi de cette manière-là. Qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah ? Dans le mot mitzvah, je vous ai déjà raconté que la graphie du mot mitzvah, elle permet de lire mitzvah, mais aussi metzavé et aussi metzouvé. Et une mitzvah, c'est tout ça à la fois. C'est ce triplet, en fait. C'est une relation entre Hachem, qui est le metzavé, l'homme, qui est le metzouvé, celui qui a reçu les autres, et l'ordre, le conseil qu'Hachem nous donne, et la boucle, elle est bouclée quand l'homme fait la mitzvah, donc la relation qui était une relation qui allait d'Hachem vers l'homme, quand l'homme fait la mitzvah, il boucle la boucle, et ça remonte de l'homme vers Hachem. Mais le fait que ce que l'homme fait à ce moment-là, il fait quelque chose qui est évidemment en rapport avec Hachem. Il agit, on peut même dire il agit sur l'ordre d'Hachem, si on veut traduire la mitzvah par ordre. Et par conséquent, c'est parce qu'il agit sur ordre d'Hachem, c'est parce qu'il est en liaison avec Hachem quand il agit, qu'il peut plus que ce qu'il peut. C'est de cette manière-là qu'il a plus de pouvoir que ce qu'il a lui-même comme pouvoir. exactement comme quelqu'un qui est fondé de pouvoir ou comme n'importe quel flic, n'importe quelle personne assermentée. Pourquoi on va le croire, on va croire cette personne plus que vous? Parce qu'elle se réclame, parce qu'elle est en lien avec une autorité qui s'impose à vous aussi. Elle parle au nom de cette autorité. Et nous, quand nous agissons en tant que Metsuvé, lorsqu'on fait une mitzvah, on agit au nom d'Hachem. On agit avec la puissance d'Hachem. Je dis l'habitude, on agit divinement. L'homme agit divinement dans la mesure où il agit comme Hachem lui demande d'agir. Et ça peut largement dépasser ce qu'il aurait pu faire par lui-même. Alors le geste, c'est bien lui qui le fait, mais l'impact de ce geste-là. Quand vous pouvez toujours prendre un chauffard et sonner tout ce que vous voulez comme sonnerie de chauffard, ça n'aura aucun impact. Si ce n'est dans le cadre de la mitzvah de sonner du chauffard à Rosh Hashanah et en sonnant comme il a été prescrit de sonner. À ce moment-là, ce chauffard-là, cette sonnerie, elle aura un impact. Mais pour le reste du temps, vous pouvez sonner aussi autant que vous voulez, ça ne dérange pas les voisins, mais ça n'aura aucun impact. Donc dans la sonnerie, il n'y a pas d'impact. Sauf, je parle bien, il y a le bruit, mais l'impact spirituel ou tout ça, ça n'existe pas dans la sonnerie. C'est donné par le fait que c'est Hachem qui me l'a prescrit et que quand j'agis Metsuvé avec un Metsavé qui est là. Et si je fais la mitzvah sans référence du tout, c'est-à-dire le geste en lui-même, mais sans qu'il y ait quoi que ce soit en rapport avec Hachem, ce geste-là ne sera qu'un geste vulgaire, si on peut parler comme ça. La mitzvah, c'est un exemple. C'est-à-dire, c'est certaines règles qui nous ont été données, mais tout ça, ça s'inscrit dans un plan complet, un plan qui nous prend totalement. Dans ce plan, il y a non seulement ce qu'Hachem veut que je fasse, mais dans le plan en question, il y a tout le fonctionnement de mon corps aussi. Mon corps, comme le reste de tout ce qui a été créé d'après la Torah. Donc tout mon corps obéit aux règles de la Torah. C'est pour ça qu'il y a un impact sur nous-mêmes, des mitzvot que nous faisons, ou des choses que nous ne devrions pas faire. Ce monde, c'est le monde. C'est le seul vrai monde, en quelque sorte. Alors, nous nous fabriquons des mondes dans lesquels on reste petit. Mais c'est en fait une fermeture, comme j'ai dit, à ce monde, à un monde meilleur, à un monde d'harmonie. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, peut-être même depuis très longtemps, la réalité d'un juif, en fait. La réalité d'un juif, c'est d'être relié à un juif qui est au-dessus de lui. C'est-à-dire à un maître. On choisit son maître. Mais sans maître, on ne peut pas y arriver. Il y a eu un temps où les Juifs étaient prophètes, où il y avait un prophète dans leur voisinage. Eh bien, on explique que, au temps des prophètes, quand quelqu'un avait un problème, il ne savait pas exactement comment il devait se conduire, il allait chez le prophète et le prophète lui dévoilait qui il était et quelle place il avait dans le plan divin. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophète, mais il y a des maîtres. On a passé de Nevi'im au Chachamim. Les maîtres ne peuvent pas dire les choses comme le disaient les prophètes. Mais il y a une chokhma, et on a une mitzvah d'Emunat Chachamim, de faire confiance aux maîtres. Bon, il faudrait définir exactement ce que c'est qu'un maître, mais ce n'est pas maintenant ce que je veux faire. Nous sommes très très loin de tout cela. On est tellement dans nos limites, en quelque sorte. Alors, d'une certaine manière, on pourrait se dire, bon, on est dans un monde détruit, le monde qui est décrit dans Echa. Ben, la situation qui est décrite dans Echa, c'est une situation qui a été amenée par la conduite des gens. Comme le Navi dit, il y a eu un moment où les gens de Torah ne disaient pas la Torah. Les gens qui avaient étudié la Torah, qui étaient censés connaître la Torah, n'enseignaient pas la Torah. Ils ne se conduisaient pas non plus selon la Torah. Le Navi Eshayahu, lui, il a des mots très très durs là-dessus. Il les compare à Sdom et à Amora. Donc il y a eu une situation comme celle-là qui a mené à ce monde complètement détruit qui est décrit là. Et nous, on est dans ce monde détruit. Alors, est-ce que nous sommes complètement détruits? Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir, en quelque sorte? En fait, ce qui est décrit ici, c'est qu'en fait, Hachem est intéressé à nous, si on peut parler comme ça. Il nous veut. Et il ne nous laisse pas faire. Les goyim, Hachem les laisse faire. Nous, non. On voudrait être heureux avec nos plans à nous, notre plan à nous. On voudrait faire ce qu'on a envie de faire et on pense que ça nous rendra heureux. Et Hachem ne nous laisse pas faire. Ce jour de Tisha B'Av, il est caractérisé par plusieurs choses, on en parlera encore, mais en particulier, il est caractérisé par le fait que Shacharit, la prière de Shacharit, on l'a fait sans tefilin. Les hommes ne mettent pas de tefilin. Les tefilin, c'est l'expression de ce qu'Hachem est intéressé à nous. La Gemara, elle dit, Akadosh Baruch Hu, il met les tefilines exactement comme nous mettons des tefilines. Et la Gemara dans Brachot, elle demande dans les tefilines des hommes, on proclame Shema Israël, entre autres, on proclame l'unité et l'unicité d'Hachem. Qu'est-ce qu'il y a dans les tefilines d'Hachem? Qu'est-ce qui est écrit dans les tefilines d'Hachem? Marie explique que dans les Tefillin d'Hachem, il est écrit ce que nous avons dit à Mincha hier, Shabbat. Mi ke'amcha Israël, goy echad ba'aretz. Qui est comme ton peuple Israël, un peuple unique. Donc nous proclamons l'unité et l'unicité d'Hachem. Et Hachem proclame l'unité et l'unicité du clan Israël. Donc c'est l'expression de ce que Hachem est intéressé à nous. Il s'intéresse à nous. Nous sommes son peuple. Si on ne met pas les tefillines aujourd'hui, Shacharit, ça veut dire qu'Hachem dit « Je ne suis pas intéressé à vous aujourd'hui. Je suis intéressé à l'ordinaire à vous, mais aujourd'hui, non. » C'est un jour où, un jour terrible, un jour Hachem dit « Je n'ai rien à faire de vous. » On prie néanmoins, on prie comme quelqu'un qui est benidoui, comme quelqu'un qui est becherem. Et on proclame ainsi, parce qu'on ne met pas les tefillines donc, on proclame que nous sommes tellement loin qu'effectivement il y a un moment où il faut entendre cela. Un jour où Hachem dit je ne suis pas intéressé. L'autre, encore une fois. L'autre aussi, il est une pierre du Beth Amikdash qu'on est en train de construire. Il l'est si, en même temps que moi. Si je le suis, il l'est aussi. Et si je ne suis pas, il n'est pas non plus. C'est pas possible. C'est une construction collective. On s'assied. Jusqu'à Hatzot, on s'est assis par terre, on s'est en position basse. C'est la même chose que ce qu'on fait quand l'Olenu quelqu'un est avec, il s'assied aussi. Lorsqu'on a perdu un proche, on s'assied aussi en bas. Mais on pourrait se dire que dans les dinim d'Avelout, dans les lois de la Avelout, si on apprend qu'un proche est décédé, et on l'apprend très tardivement, disons, un mois plus tard, alors on ne s'assied pas par terre. Ça s'appelle Shmua Rechoka, on ne s'assied pas. Mais ce qui s'est passé il y a des milliers d'années. C'est une Shmua Rechoka, on ne devrait pas s'asseoir. Si on s'assied, ça veut dire que c'est quelque chose de maintenant. C'est maintenant. C'est-à-dire, c'est maintenant qu'on a perdu quelque chose. C'est pas il y a longtemps. Sinon, on n'aurait pas ce processus de deuil. Le problème, justement, c'est maintenant, ça veut dire que c'est maintenant que, un peu comme Chazal disent, que tout celui du vivant duquel le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit de son vivant. Donc le Beth Amikdash, il a été détruit de notre vivant. C'est pas un truc qui est arrivé à nos ancêtres. C'est un truc qui nous concerne. Nous faisons tout ce que nous pouvons, semble-t-il, pour nous empêcher d'être une pierre dans la construction du Beth Amikdash. fait, c'est en réalité une tragédie personnelle. C'est accepter que l'autre, même l'autre qui est chez moi, a une part dans le plan . Toute la prière, en réalité, que nous faisons, c'est une prière pour être en relation, pour être proche d'Hachem. Mais le problème, c'est que notre conduite n'est pas du tout en phase avec la prière qu'on fait. Nous, on voudrait qu'Hachem cesse de s'intéresser à nous, qu'il nous lâche les baskets, qu'il nous laisse faire ce qu'on a envie de faire. Mais il ne nous laisse pas. Et quand il ne nous laisse pas, ça fait souvent très 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 mal. Parce que ça va dans le sens contraire de ce que nous voudrions. Hachem veut... Il veut de grands hommes, de grandes femmes. C'est-à-dire des gens qui sont liés avec au-dessus d'eux, ce qui est au-dessus d'eux. Nous, quand nous voulons dire dans la Hamida, quand nous voulons dire la Kdusha, alors, nous disons que nous fabriquons une espèce d'échelle. Ata Kadosh, on sait bien que tu es Kadosh, tu es saint. Ton nom même est saint. Et puis, ceux qui nous considérons comme saints, ils disent que tu es saint. De toute façon, on a fabriqué une échelle. Parce que si moi je dis que quelqu'un est saint, même si je dis qu'Hachem est saint, mon horizon est trop proche en fait. Je n'ai pas dit grand-chose. Par contre, si je dis que le Chafetz Chaim dit qu'Hachem est Kadosh, alors j'ai déjà gagné un peu quelque chose, parce que j'utilise l'appréciation du Chafetz Chaim, mais si le Chafetz Chaim dit que le Gaon de Vilna a dit qu'Hachem était proche, était Kadosh, on a encore gagné les échelles. Donc, nous, notre seule façon d'appréhender la grandeur, c'est de se rattacher à quelqu'un qui est plus grand que nous, qui lui se rattache à quelqu'un qui est plus grand que lui, etc. Bon, de nouveau, là, on a toujours ce problème. Il faut se rattacher à quelqu'un qui est plus grand. Comment on sait qu'il est plus grand? Toujours un grand problème. Savoir comment savoir que l'autre est plus grand? Il ne s'agit pas de dire par modestie et par fausse modestie, il est plus grand, donc il est plus grand, mais comment je peux savoir qu'il est vraiment plus grand? C'est une question aussi un peu ouverte. À Tisha B'Av, on ne mange pas. On n'a pas mangé, on n'a pas bu. Bon. Mais en fait, ne pas manger, ne pas boire, c'est une déclaration que nous faisons ce jour-là, qui est bien plus profonde que le seul fait de ne pas manger et pas boire. Tisha B'Av, c'est, comme on l'a lu, c'est la Midat HaDin, en fait, qui est à l'œuvre. Et ce que nous disons en ne mangeant pas, nous acceptons la voix d'Hachem en quelque sorte. qu'est-ce que c'est cette Midat Hadin? Et pourquoi est-ce qu'il y a la Midat Hadin? Ça se traduit, comme on l'a vu, en s'asseyant en position basse, en pleurant, en criant, en se lamentant. Le cœur de cela, c'est que une personne, elle prend seule ses décisions et elle oublie qu'elle est connectée à Hachem. Alors Hachem, dis-tu, tu veux être seul? Alors je te laisse seul. Or, on ne peut pas être seul. On ne peut pas être seul, on est obligé d'avoir recours à quelque chose d'extérieur. Si on n'a pas recours à l'extérieur, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Et on ne peut pas vivre, on ne peut pas survivre. La première étape de l'acceptation de ce que je ne peux pas m'en sortir tout seul, que je suis obligé de reconnaître. On verra ce que ça veut dire. Effectivement, cette triste chose, si on peut parler comme ça. Cette première étape, en fait, c'est le jeûner. Je montre, j'expérimente, voilà, je peux jeûner un jour, peut-être deux jours, mais 3-4 jours, j'y arriverai pas. L'être humain n'est pas capable d'être coupé de tout. Ce qu'on dit, c'est juste, on a fait une faute. Nous avons voulu être autonome, faire les choses tout seul, faire comme on en a envie. On a voulu vivre sans devoir tendre la main. On a besoin d'un input de l'extérieur. On a besoin d'une entrée, en fait, de mettre quelque chose. Jeûner, c'est dire, j'ai compris que je ne peux pas vivre seul. Je ne peux même pas vivre physiquement seul, mais à plus forte raison spirituellement. Avec la lecture de Echa, avec les keynotes, on a un regard plus clair sur les choses. Si on veut que la Torah, que la Kdusha soit avec nous, que ce ne soient pas des notions abstraites qui n'ont rien à voir avec nous, si on veut qu'il y ait présence d'Hachem parmi nous, alors il faut comprendre que, bien sûr, on décrit toutes les souffrances, et tout le monde souffre, mais cette tragédie, elle vient du fait que le plan d'Hachem n'est pas réalisé. Quand on s'assied bas, en quelque sorte, sur le sol ou sur les chaises basses, pour dire, on a raté, on a manqué le plan, on a manqué le coche en quelque sorte. Il faut que nous apprenions à nous aligner sur le plan d'Hachem. Parce que nous sommes en fait une partie de ce plan. Et si on ne s'aligne pas sur le plan, le plan va nous écraser. certaine manière, toutes les tragédies, elles sont de cet ordre-là. Ça tourne toujours autour de cela. Il y a un plan d'Hachem. Et on ne se tient pas à ce plan, alors ça devient tout de suite tragique. Et pour nous, cette tragédie, c'est une tragédie divine, si on peut. Le début, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'il faut faire de ce Tisha B'Av ici, si terrible? Il faut essayer de comprendre, se demander où est-ce que je suis, où est-ce que le peuple juif est dans le plan d'Hachem. Alors, ce plan d'Hachem, on le dit en un mot, on dit, on veut qu'il y ait Ashrat Ashrina. Hachem veut résider parmi les hommes. Ça a été très très clairement dit dès le départ. Au départ, Akadosh Baruch Hu, comme le montre le Ramchal par exemple, au départ, Akadosh Baruch Hu est donc, il est parmi les hommes, il est avec Adam et Chava. Et puis, au fur et à mesure que l'humanité faute, elle chasse Hachem, elle l'éloigne. Il monte de ciel en ciel jusqu'au septième ciel. Le septième ciel, c'est l'éloignement maximal. C'est le désastre absolu. C'est arrivé jusque-là, et à ce moment-là arrive dans l'histoire Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, il fait redescendre Hachem, si on voulait, du 7e au 6e ciel. Et Yitzhak Avinu du 6 au 5, Yaakov Avinu, etc. Et ça descend jusqu'à Moshe Rabbeinu. Jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu, effectivement, fasse descendre la Torah dans ce monde, donc la présence divine est là, dans le monde, et Hachem dit, ok, vous allez construire un Mishkan, qui sera ma résidence, on va concrétiser la présence divine dans le monde. Mais en vérité, ce Mishkan, il est un peu trompeur, parce qu'il donne l'impression qu'Hachem va résider dans le Mishkan. Or, le pasouk dit exactement autre chose. Enfin, le pasouk dit, sous les migdash, il s'agit du Mishkan ici, Veshachamti betocham, je résiderai parmi eux. Si c'est pour dire que le Mishkan va être au milieu des camps des Bnei Israël et que les Bnei Israël vont camper autour du Mishkan, on n'a pas besoin d'un pasouk pour ça. Je résiderai parmi eux, chacun sait, Rashi le dit, ça veut dire Belef kol echad ve'echad. C'est-à-dire que la résidence d'Hachem, elle ne doit pas être dans un lieu précis. Elle doit être dans le cœur de chacun. C'est ça, Ashrat Ashrina. Lorsqu'on voit la résidence d'Hachem comme étant une résidence dans un lieu. Alors on a affaire à un temple, et c'est un désastre. Comme Hachem dit, j'en ai rien à faire de vos korbanot, de vos shabbatot, de vos chefs d'Hashim, etc. Quand les Bnei Israël se conduisent mal, ils se conduisent mal en dehors du Beit HaMikdash. Le fonctionnement du Beit HaMikdash, jusqu'à la fin, il était parfait. On a fait ce qu'il fallait. Mais Hachem dit, mais j'en ai rien à faire. Si vous, vous conduisez comme des crapules à l'extérieur, à la limite, c'est en fait insultant de faire fonctionner le Beth Amigdash. C'est comme si on disait à Hachem, voilà, tu veux un os à ronger, voilà l'os à ronger, tu veux des corbanotes, voilà, on va t'en faire quelques-uns. C'est un peu ce qu'Amalek a fait avec les milotes. Il a dit à Hachem, tu veux des milotes, on va t'en donner, on va te jeter vers le ciel. C'est insultant. Ça ressemble au système des indulgences. C'est scandaleux. C'est ce qu'Hachem dit, c'est scandaleux. Et quand les Bnei Israël se sont conduits de la sorte, ils ont détruit le Beth Amikdash d'en haut. Enfin, tout le monde sait. Yerushalayim, la terminaison Haïm, ça veut dire deux. Ouais. Yerushalayim, c'est le Haïm, la terminaison Haïm, elle ne veut pas dire pluriel, seulement elle veut dire deux. Ça veut dire qu'il y a deux Yerushalayim. Il y a un Yerushalayim en bas, il y a un Yerushalayim chez le Mala. Yerushalayim chez le Mala, il est nourri des mitzvot, des Maasim Tovim, etc., de tout ce que les Bnei Israël font de bien. Et c'est un circuit, parce qu'il est nourri de cela, mais c'est lui qui donne la vie au Beth Amikdash d'en bas. Encore une fois, le Beth Amikdash d'en bas, on y fait plein de choses, mais si ce Beth Amikdash n'a pas la vie donnée par le Beth Amikdash d'en haut, alors c'est une boucherie. On va égorger les animaux, va baigner dans le sang, etc. va faire des crêpes. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Mettre un peu d'encens, des odeurs, des crêpes, tout ça. C'est rien du tout. Ça n'est un Beth Amikdash que parce qu'il est vivifié, si vous voulez, par le Beth Amikdash d'en haut. Et ce Beth Amikdash d'en haut, il est nourri de la conduite des Bnei Israël. Quand les Bnei Israël se conduisent comme des crapules, alors non seulement ils ne construisent pas le Beth Amikdash d'en haut, mais ils le détruisent. Et quand le Beth Amikdash d'en haut a été détruit, celui d'en bas, c'est une coquille vide. N'importe quel Nebuchadnezzar ou n'importe quel Titus peut venir le détruire. Si le Beth Amikdash d'en bas était la résidence d'Hachem, quand Nebuchadnezzar ou Titus sont venus, est-ce que ça a un sens de... Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils auraient pu détruire la résidence d'Hachem? C'est quoi? C'est l'hérésie pure et simple, non? Ça veut dire quoi que les... Quoi, un guerrier va venir et une armée va venir et détruire la résidence d'Hachem? Si c'est vraiment la résidence d'Hachem? Bien sûr qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Chachamim le dit clairement, les seuls qui pouvaient détruire le Beth Amikdash d'en bas, c'est les Bnei Israël. Ça n'a pas manqué. Parce qu'ils ont détruit le Beth Amikdash d'en bas en faisant une coquille vide, en détruisant le Beth Amikdash d'en haut qui était la source de vie du Beth Amikdash d'en bas. Et des coquilles vides, encore une fois, n'importe quel Titus, n'importe quel... Nebuchadnezzar peut venir et le détruire. Ashrat Ashrina, c'est donc une présence dans le cœur de chacun. Le cœur, c'est l'organe qui dirige la personne. Ce n'est pas la pompe. C'est ce qui dirige. Donc, ce n'est pas quelque chose, Ashrat Ashrina, ce n'est pas quelque chose que nos sens vont ressentir. Pas compter sur nos sens pour nous informer sur la présence ou non d'Hachem dans le monde. Évidemment, cet Hashrat Hashrina, c'est quelque chose de spirituel. Il y a un plan d'Hachem pour qu'il puisse résider parmi les hommes. Mais ce plan ne fait pas des hommes des marionnettes, tirer des fils simplement. Nous sommes une partie de son plan. Et le plan, ce qui est important ici, le plan d'Hachem contient la souffrance également. La souffrance, elle est dans le plan d'Hachem. Donc tout ce qui est décrit ici, ce n'est pas quelque chose qui était hors plan. Dans la Kriyat HaTorah, qu'on a lu et qu'on va relire cet après-midi, on dit « Viyadata », tu dois savoir que, etc., qu'Hachem, il y a Hachem et En Od. Il n'y a rien d'autre. Rien, absolument rien d'autre. Rien d'autre, ça veut dire que la souffrance n'est pas due à autre chose qu'à la volonté d'Hachem. Hachem, ou à Elohim, c'est lui qui dirige. Et la souffrance, elle vient d'Hachem. On a tendance, et on croit que c'est de la piété, à fermer les yeux sur la souffrance. Ne pas la voir. Non, c'est la souffrance. Oui, c'est en ordre. Hachem nous parle sans cesse et il parle par la souffrance également. Tout le monde souffre. Le docteur a donné une très bonne image. Les Chachamim disent que l'homme est un olam katan, que l'homme est un monde en petit. Si on regarde le globe, au nom du globe terrestre, la boule terrestre en tout cas, elle n'est globalement, elle n'est pas viable. Elle n'est pas vivable. Il n'y a qu'une faible couche extérieure qui est vivable pour l'être humain. Le cœur du globe, c'est de la lave, c'est en fusion. On ne peut pas y vivre. L'homme, c'est comme ça aussi. Il n'y a pas d'homme qui ne souffre pas. On rencontre les gens, on dit, ça va, oui, ça va très bien, merci, tout est très bien. Si on appuie un peu, il sort toutes sortes de souffrances. Tout le monde souffre. Si on appuie un peu, si on est sous la couche, facilement, on peut dire qu'on vit. Fermer les yeux sur la souffrance, c'est ne pas accepter le message. Il y a un message. Si on comprend que la souffrance, elle fait partie du message, elle fait partie du plan divin, et là, elle est un message aussi. Alors, ce qui est bouillant, qui est brûlant, qui est douloureux, peut devenir tolérable. Et on grandit. Le succès, dans la version juive du succès, c'est réduire la différence, la distance qu'il y a entre mon plan et le plan d'Hachem. C'est ça Ce succès, il contient de la souffrance encore. C'est simplement, il faut se demander qu'est-ce qu'Hachem veut me dire avec cela. Qu'est-ce que c'est qui me dérange exactement? Qu'est-ce qui me fait souffrir? Et en quoi est-ce que c'est contradictoire avec mon plan, c'est-à-dire ce que je voudrais faire? Puisqu'en réalité, le message, c'est le message, on le connaît, c'est ton plan, c'est pas le bon. Souffre parce que ton plan n'est pas le bon. Tu souffres parce que tu souffres comme quelqu'un qui aurait mis une paire de chaussures qui ne sont pas à sa taille. Tu t'imagines que tu vas pouvoir, elles sont plus belles, alors ça te fait plaisir de mettre ces chaussures-là. Je regarde du côté des hommes. Mais c'est une torture. On voit comme ça, il arrive des fois, on voit les gens sortir. C'est ça. Ton plan est mauvais parce qu'en fait, c'est pas vraiment le tien. C'est un plan que tu as emprunté, tu as copié, Il ne s'agit pas toujours d'un plan pour faire de mauvaises choses. Le plan peut être un plan pour faire de bonnes choses. On veut copier un plan. Cette personne-là, c'est un tzaddik ou une tzaddikette, je vais faire comme elle. Et je vais comme elle et c'est un désastre. Parce que ça ne me correspond pas du tout. Bon, c'est pas moi. Quand on dit qu'on a un plan, on a une place dans le plan d'Hachem, et que j'ai une place, et l'autre il a aussi une place. Il n'y a pas deux personnes qui sont à la même place dans le plan. On n'est pas en concurrence pour une place, il n'y a qu'une seule place et il faut savoir qui va la prendre. Chacun a sa place. Mais c'est la sienne. Et comme je vous ai dit, dans le plan d'Hachem, tout est dans ce plan. C'est-à-dire, ce que je suis physiquement, c'est aussi dans le plan d'Hachem. Capacité intellectuelle, c'est aussi dans le plan d'Hachem. Le rôle que je peux jouer dans ma maison, est-ce que je peux avoir une grande famille, est-ce que je ne peux pas avoir une grande famille, est-ce que je sais gérer, est-ce que je saurais conseiller, mettre mes enfants sur la bonne voie, etc. Tout ça, c'est dans le plan d'Hachem. On ne peut pas copier. C'est impossible de copier. On peut s'inspirer, on peut dire... Ah, cette personne, elle fait quelque chose de bien, je veux réfléchir. Est-ce que je pourrais faire quelque chose d'analogue? Le Klal Israël se doit souvent de faire des choses, de grandes choses, et parfois, il y a un défi qui vient d'égoïme. Je me souviens quand les Américains ont envoyé quelqu'un sur la Lune, mon maître Ravolbe avait dit que du coup, nous, les Bnei Israël, on est obligés de faire quelque chose à la même hauteur. Il a commencé à expliquer, c'est la résultante d'une collaboration à tous les niveaux. Ils n'ont pas pu envoyer quelqu'un sur la Lune de cette manière-là. C'est pas, il y a un petit groupe de gens qui ont envoyé quelqu'un sur la Lune. C'est une mobilisation générale. La question qui se posait, c'est qu'est-ce que nous sommes capables, nous, Klal Israël, de faire à cette même hauteur? C'est un défi. Ça, c'est s'inspirer. On ne peut pas copier. Évidemment, là-bas, il n'était pas question de copier, mais très souvent, on croit qu'on doit copier. On doit copier un maître ou on doit copier... Le maître non plus, il ne faut pas le copier. Il y a des choses qu'on peut prendre chez son maître. Il faut peut-être lui demander s'il pense que c'est adéquat pour nous. Si on a un vrai maître, le maître, on peut lui demander est-ce que ce que vous faites là, est-ce que je peux le faire aussi? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que je ne vais pas m'effondrer avec ça? Est-ce que je ne vais pas m'enorgueillir? Est-ce que je ne vais pas... C'est pas du tout. Parce que si on dit... Si la résultante, c'est... C'est moi le... Je suis comme mon maître. On sait déjà que c'est faux, quoi. C'est de l'orgueil. Tisha B'Av, c'est donc une grande question. C'est en même temps une puissante proclamation qu'on fait en s'asseyant par terre, en jeûnant, etc. Le problème, c'est que ça ne s'arrange pas si facilement. Revenir à cette notion de souffrance, de peine, il ne s'agit pas d'expliquer la peine. Ce n'est pas de la émouna d'expliquer la peine. Souvent, les gens s'imaginent que quand il faut consoler quelqu'un, etc., il faut lui dire que c'était une très grande neshama, que c'était une personne extraordinaire, etc., que c'est un sroût, etc. Ça, c'est de la cruauté. Si c'est un tel sroût, alors, que tu ne le prends pas pour toi, demande de l'avoir. On échange. Tu prends ma peine et moi, avec le sroût, prends-le. Si c'est un tel sroût. C'est en fait refuser à comprendre la peine de l'autre. Je ne peux pas la comprendre. Je refuse ta peine, je ne la vois pas. Je suis en train de te raconter que c'est extraordinaire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un message, et ce message, il interfère avec mon plan. Avec ma façon de vivre. Et il faut non pas se concentrer sur la peine, sur la douleur, etc., mais sur le plan. Et donc, à Tisha B'Av, on doit, d'une certaine façon, se créer à nouveau, mais se créer en phase avec son plan, ou autant en phase que possible. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions, ça durera peut-être un mois, etc., mais peu importe, on recommencera. Elles disent que Amitabel al Yerushalayim, que celui qui porte le deuil de Yerushalayim, il verra Yerushalayim reconstruite. Il la verra dans sa splendeur. Si on entend Amitabel comme on l'a expliqué, c'est-à-dire, on comprend que ce qui arrive à Yerushalayim, c'est un message. Il faut l'entendre comme tel. Il faut accepter le message. Et accepter qu'il bouleverse notre façon de voir les choses. Alors, si effectivement on accepte de voir que ce qui arrive à Yerushalayim, c'est un message, que il faut, ça nous dit qu'est-ce qu'il faut remettre en question, etc. Alors, on verra à Yerushalayim, à ce moment-là, l'harmonie sera possible. Et à ce moment-là, on verra effectivement une Yerushalayim construite. Le but de l'exercice, c'est donc que la Shekhinah soit reconnue dans le monde. Et ce que nous voulons, ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes et nous devons faire en sorte de l'être chaque jour mieux, en fait, que nous sommes une partie de ce plan de reconnaissance de la Shekhinah. C'est que par nous aussi, la Shekhinah doit être reconnue dans le monde. Nous devons la reconnaître, mais on doit la reconnaître par nous également. Alors, nous ne sommes pas les Avot au sujet desquels on a dit qu'ils étaient la Merkava. C'est-à-dire, quand on voyait Avraham Avinu, on savait ce qu'Hachem voulait d'un homme. Mais d'une certaine manière, nous devons, si nous sommes dans le plan d'Hachem, alors on doit pouvoir lire le plan sur nous. Donc on doit le plan d'Hachem dans ce monde. Donc c'est ça la Hashrat Hashrinah. Que dans notre conduite, le plan d'Hachem soit reconnaissable. Voilà, on va s'arrêter là.